Bonjour à tous. Le match des milliardaires dans la course à l'espace. Richard Branson, le patron de Virgin, s'envole cet après-midi pour un vol à la frontière de l'espace avant son rival Jeff Bezos, patron d'Amazon. Marie-Pierre Véraud, dans un instant. Le match Angleterre-Italie en football en finale de l'Euro ce soir à Londres. Événement historique pour le football et le football anglais en particulier, qui n'a plus gagné aucun titre depuis une Coupe du Monde il y a 55 ans. Charles Griffith installé. Un Anglais installé à Tours.
Depuis 66, ça a été une longue série de déceptions. Mais cette fois, j'ai l'impression que c'est différent. Je dois dire que j'étais étonné à voir à quel point l'équipe croit en elle-même.
La lutte contre le variant Delta, quelles mesures pour stopper l'épidémie et la hausse des contaminations, passe sanitaire, vaccin obligatoire pour les soignants. Emmanuel Macron devrait annoncer un nouveau tour de vis demain soir. Dans ce journal également, des élections législatives en Bulgarie et le Tour de France qui arrive dans les Pyrénées. La météo avec un ciel coupé en deux, nuages au nord, soleil au sud, des orages attendus en fin de journée dans le sud-ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Quelques minutes seulement dans l'espace, mais quel voyage ! Richard Branson, le milliardaire britannique, doit décoller cet après-midi pour un vol suborbital à plus de 80 km dans l'espace, à la frontière entre l'atmosphère et le vide spatial. À bord de son avion-fusée, le patron de Virgin Galactic accompagnera 5 passagers pour un vol présenté comme le début d'une nouvelle ère de tourisme spatial. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Frédéric.
Et derrière ce premier vol, il y a aussi le duel ou le match de milliardaires dans la course au tourisme spatial.
Et oui, un match dont Branson entend remporter la première manche. Si tout se passe bien tout à l'heure, côté météo et dernier réglage technique, le Britannique sera en effet le premier milliardaire à franchir cette nouvelle frontière dans l'espace. Branson, dame le pion, a sauté une éternelle rivale, l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon ne doit lui s'envoler que le 20 juillet. Et puis on a aussi Elon Musk, patron de SpaceX, qui assistera au décollage et souhaite le meilleur à Richard Branson. Le meilleur pour ce rêve de gosse que l'on partage tous. Voir la Terre d'en haut, contempler la planète depuis l'espace. Alors concrètement, le vaisseau de Virgin Galactic sera accroché sous un gros avion porteur qui va le lâcher vers 15 000 mètres. La navette va alors accélérer à la verticale à 3 fois la vitesse du son, dépasser la limite de l'atmosphère. La suite, c'est Philippe Dronneau de la Cité de l'espace à Toulouse qui la raconte.
On dépasse les 60 km, au-delà duquel il y a 99,99% de l'atmosphère qui a disparu. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans le vide spatial. Par contre, on a une vitesse nulle et on fait juste un saut au-dessus de l'atmosphère. Donc il s'agit de vols suborbitaux. On est en apesanteur, c'est-à-dire on flotte comme les astronautes. On reste dans l'espace, disons, dans le vide spatial, durant à peu près 3 minutes.
Voilà, 3 minutes et l'on redescend. Branson entend tester la qualité des fauteuils, de la vue pour de futurs clients. Et oui, il garde les pieds sur terre. C'est du rêve, mais aussi des affaires.
Marie-Pierre Véraud, merci. Les prémices d'une 4e vague de l'épidémie de coronavirus sont bien là. Les hospitalisations et les entrées en réanimation baissent. Mais dans le même temps, les contaminations sont en hausse. 4696 nouveaux cas hier, contre à peine plus de 3000 il y a une semaine. Le variant Delta gagne du terrain. Un bond de 70% en une semaine et il représente désormais la moitié des contaminations en France. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron prendra la parole demain, avec une pression de plus en plus forte pour rendre la vaccination obligatoire pour les soignants et avec un consensus relatif politique et syndical sur ce point, Élodie Forêt.
Hormis les réserves de la France Insoumise, du Rassemblement National ou de la CGT, la vaccination obligatoire pour les soignants fait en effet consensus et fait partie des pistes principales du gouvernement face à une éventuelle 4e vague, avec aussi l'élargissement du pass sanitaire. Il pourrait devenir obligatoire dans les bars ou les restaurants. Deux sujets sur lesquels le Conseil de défense sanitaire prévu demain matin va trancher. Les arbitrages seront donc annoncés le soir par Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, qui sur la forme a choisi l'allocution pour s'adresser aux Français comme il l'a toujours fait durant cette crise quand il devait passer un message fort, solennel. C'est ainsi qu'il avait annoncé le confinement ou le couvre-feu. Demain, il s'agira de mettre la pression sur les Français. Faites-vous vacciner, leur dira Emmanuel Macron, qui n'aura guère de place pour les autres sujets si ce n'est les conséquences économiques de la crise et le plan de relance.
Et ce variant Delta qui progresse provoque des inquiétudes pour l'économie, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et restauration, touché de plein fouet par la crise sanitaire. 15% des établissements pourraient fermer, notamment faute de personnel. Depuis la fin des restrictions sanitaires au printemps, environ 120 000 employés ne sont pas retournés travailler. À Plaisir, dans les Yvelines, ce sont les clients d'un établissement qui ont été recrutés pour faire face au manque de personnel. Reportage Pierre Pilet.
Voici votre ticket, monsieur. Bonne fin de journée à vous.
Dans cette brasserie, Chérine, 23 ans, est une salariée un peu particulière.
J'ai d'abord connu le côté cliente et maintenant, je suis serveuse.
Étudiante, elle travaille ici depuis 3 semaines, recrutée en un clin d'œil par la directrice.
Quand je suis venue boire mon verre, je lui ai demandé comment ça se passait, s'il fallait que je ramène mon CV. Et elle m'a tout simplement demandé de venir avec une chemise le lundi pour me voir.
Formation express pour Chérine comme pour plusieurs autres nouvelles employées.
La plupart de l'équipe que vous voyez aujourd'hui dans le resto, je les ai recrutés, on va dire, sur la terrasse.
Une méthode de recrutement liée au peu de réponses aux offres publiées, explique Anaïs, la responsable de l'établissement.
On a mis plusieurs annonces. Sur une semaine, on a dû recevoir 4-5 CV. Avant, pour un poste de cuisine, je recevais 20-30 CV.
Cette situation est liée aux fermetures à répétition, selon Franck Delvaux. Il est président de l'UMI en Ile-de-France, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Une partie de nos équipes se sont rendues compte que ça pouvait être sympa de pas travailler le week-end, pas travailler le soir, pas travailler en coupure, et sont partis vers d'autres métiers. On peut estimer qu'il y a entre 20 et 30% de personnes qui ont quitté le métier de l'hôtellerie-restauration.
Son organisation et le gouvernement misent notamment sur Pôle emploi et ses opérations comme les job dating afin de dynamiser les recrutements dans la restauration.
Et dans ces moments d'inquiétude face à une reprise de la pandémie, notamment chez des jeunes rivés sur les réseaux sociaux, il faut écouter aujourd'hui à 14h l'émission Interclasse avec François Hollande comme invité. L'ancien président s'est rendu dans les quartiers nord de Marseille pour échanger avec des jeunes gens, notamment concernant les fausses informations qui gangrènent les réseaux sociaux, mais également pour parler du fléau que représente le cyberharcèlement, extrait d'un échange entre François Hollande et les jeunes de Marseille.
Ces dernières années, nous observons des violences grandissantes entre jeunes, que ce soit des règlements de compte ou de cyberharcèlement. Comment pourrait-on lutter contre cela ?
Beaucoup va dépendre de vous, encore une fois. Il y a ce que doit faire l'État, de la responsabilité de ceux qui vous entourent, des enseignants, de vos parents aussi, mais il y a aussi vous. Il faut revenir à une forme d'engagement personnel. Quand on voit qu'il y a du harcèlement, quand on voit qu'il y a un jeune ou une jeune qui est toujours maltraité, poursuivi, il faut agir, il ne faut pas se taire. Et on protège à la fois la personne qui peut être exposée à la violence comme la personne qui peut être tentée par la violence, pour qu'on l'empêche de commettre cet acte qui va ruiner sa vie et peut-être anéantir la vie d'une autre personne. Donc il est très important que vous soyez tous très vigilants, très solidaires. Ça s'appelle la responsabilité individuelle.
L'ancien président François Hollande, invité aujourd'hui d'Interclasse à 14h. À l'étranger, en Bulgarie, on vote pour la seconde fois en 3 mois. Élection législative avec l'espoir de sortir de l'impasse et arriver enfin à la formation d'une coalition stable. Le nouveau parti, il y a un tel peuple, de la vedette, de la chanson et de la télé, Slavi Trifonov, pourrait cette fois détrôner l'ancien Premier ministre Boyko Borisov au pouvoir pendant 10 ans et au terme d'une campagne électorale parsemée de scandales politiques. Sur place à Sofia, Damien Vodenicharov.
Trafic d'organes dans un hôpital public à Sofia, des milliards oubliés par le fisc bulgare, une banque publique censée stimuler les PME qui financent en fait des oligarques. Les révélations se sont multipliées au cours des mois d'existence du gouvernement provisoire de Stéphane Yanev. Le Premier ministre dit simplement dénoncer les dérives du pouvoir.
Nous ne faisons que constater les faits. Le gouvernement n'est pas en mesure de mener une enquête ou de faire des procès. Nous ne cherchons pas le scandale. Ce que nous avons découvert est une manière opaque de dépenser les fonds publics.
L'ancien Premier ministre Boyko Borisov se sent personnellement visé par les révélations du gouvernement provisoire. En s'adressant aux militants de son parti GERB, il se dit victime d'une campagne de dénigrement avant le scrutin.
Tout le gouvernement s'efforce de trouver la moindre chose, c'est de la propagande digne de Goebbels. Des accusations, des mensonges, tout ça pour monter les gens contre nous. Alors que ce que mon gouvernement a fait, c'est construire des routes, des infrastructures.
D'après les sondages, la vedette de la chanson et de la télé, Slavi Trifonov, pourrait remporter les élections. Son parti anti-système, Il y a un tel peuple, dénonce les dérives de Borisov et n'entend s'allier qu'au nouveau parti issu des manifestations de 2020.
Damien Vodenicharov, à Sofia. Venons-en maintenant à l'événement sportif et historique pour le football en général, anglais et italien en particulier, avec la finale de l'Euro ce soir à Londres entre l'Angleterre et l'Italie. Thé ou café, titre le journal L'Équipe ce matin. C'est bien une finale entre deux pays et deux cultures. Ambiance d'abord côté café en Italie. À quelques heures de la finale, reportage à Rome, Xavier Sartre.
Federico est content. Si samedi soir il n'a pas cessé de livrer des pizzas, ce dimanche il ne travaille pas. Il va donc avoir le temps de se préparer pour le grand soir.
Je me lèverai et ensuite, l'après-midi, j'aurai le temps de me préparer mentalement. Quelques bières et puis peut-être bien une pizza. Je regarderai le match chez un ami. C'est là que j'ai regardé toutes les rencontres et ça se passe bien. Alors, on ne va pas rompre avec la tradition.
Qu'ils suivent attentivement les moindres faits et gestes des Azzurri ou qu'ils soient pris dans l'ambiance de fête qui règne dans le pays depuis plusieurs jours, les Romains ont hâte de connaître l'issue de cet euro comme Gabriel.
Je suis vraiment impatient. Espérons que l'Italie nous offre encore du bonheur après un parcours positif.
Faisons confiance à l'équipe de Mancini et à ces jeunes talentueux. J'espère les voir place du peuple où j'ai vu tous les matchs, un peu par superstition. Sinon, je regarderai avec des amis.
Tous ne seront pas devant leur écran. Michela, même si elle habite près du stade olympique de Rome, ne regardera pas la finale.
Le foot ne m'intéresse pas. Je serai dans ma chambre pendant que mon père regardera. Je lirai un livre et j'imagine que les personnages me tiendront compagnie.
Si l'Italie remporte l'euro, elle pourra cependant difficilement ignorer la fête qui aura lieu une bonne partie de la nuit. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Et pour rester dans le thème de la journée, quelle est l'ambiance côté thé de la finale ? Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres, une finale historique pour l'équipe d'Angleterre qui a reçu les encouragements d'une supportrice de tout premier plan, la reine Elisabeth II.
Absolument, elle a publié une lettre ouverte hier où elle explique son espoir que l'histoire retienne non seulement le succès de l'équipe anglaise mais aussi l'esprit, l'engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduit. Elle veut donc la victoire, elle veut aussi la manière, celle qui a remis le trophée, le dernier trophée, le seul trophée qu'a gagné l'équipe d'Angleterre, la Coupe du Monde 1966. C'était ici même à Wembley et Elisabeth II avait remis ce trophée, elle était déjà reine depuis 14 ans déjà, donc elle connaît l'histoire de cette équipe anglaise ici. Alors c'est plus ambiance pinte que thé, je dois bien vous le dire, depuis quelques jours déjà et aujourd'hui en particulier. On sent bien qu'il y a de l'électricité dans l'air et on voit sur les marchés par exemple que l'on peut traverser ce dimanche matin moins de stands que d'habitude et les commerçants qui sont là s'en amusent et sourient en expliquant que ceux qui sont absents s'économisent, se préservent pour la soirée qui promet d'être longue, la nuit qui promet d'être très longue en cas de victoire anglaise. Évidemment, toute l'Angleterre soutient son équipe.
Richard Place en direct de Londres, qui ce sera ce soir à Wembley. Il a beaucoup de chance. Merci à vous. Le Tour de France et après l'étape musclée d'hier, nouvelle étape aujourd'hui pour les grimpeurs. Le peloton arrive dans les Pyrénées pour cette 15e journée de course entre Céret et Andorre-la-Vieille. Sur la route du Tour de France, on retrouve Nicolas Perronnet. Bonjour Nicolas. Et au pied des Pyrénées, Guillaume Martin, le grimpeur de Cofidis, étrenne son nouveau statut de dauphin au classement.
Oui, exactement. Guillaume Martin, un peu surpris presque lui-même hein, d'être deuxième du classement général ce matin. Au départ, on l'a croisé, il s'est dit fatigué. Il nous a même raconté sur le tour un petit peu de la boutade qu'il était fatigué déjà de monter sur le podium protocolaire. Donc voilà, c'est vrai que ça va être un gros défi pour lui hein, de conserver ce statut de dauphin. Il a 4 minutes de Tadej Pogacar avant d'attaquer les Pyrénées. Pour l'instant, il est dans la roue du maillot jaune, Guillaume Martin. C'est plutôt devant qu'il y a beaucoup de mouvements avec eh bien un groupe d'une trentaine de coureurs qui va bientôt faire la jonction avec 2 minutes d'avance sur le peloton. Beaucoup de Français dans ce groupe, ils sont 8, dont Julien Alaphilippe. Il y a également David Gaudu, accompagné de plusieurs coéquipiers de la groupe AMF-DG, Kenya Lissonde, Valentin Madouas. Bref, de nombreux candidats à la victoire sur cette étape de 191 km entre Céret et Andorre La Vieille avec plusieurs difficultés, dont le toit du tour, le port d'Envalira. On va passer à 2408 mètres d'altitude. C'est le point culminant de cette édition. Il va faire peut-être un petit peu frais là-haut. Ce n'est pas le cas, je peux vous dire, pour l'instant. C'est l'étape la plus chaude du tour. 32 degrés au départ de Céret. 30 km parcourus dans cette étape, cette première étape pyrénéenne.
Nicolas Perronnet sur la moto France Inter avec Jean-André Djanet. Kini, 32 degrés, vient de nous dire Nicolas, dans les Pyrénées. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Golinski.
Un temps variable cet après-midi, ponctué d'ondées du nord de la Loire au nord de la Seine, avec pour la pointe ouest une ambiance tout de même beaucoup plus maussade, et des températures basses pour la saison sur toute la moitié nord du pays, de l'ordre de 18 degrés près de la Manche, 21-22 de Rennes à Lille et 24-25 du centre Val-de-Loire au bassin parisien. Plus bas, le soleil s'impose le plus souvent, dans des températures plus de saison, vers 26 degrés de la Bourgogne-Franche-Comté et l'Alsace, 28 sur les Charentes, le Limousin et en Rhône-Alpes, 30 à 32 sur le bassin aquitain, la Corse et le pourtour méditerranéen. Notez que le vent sera turbulent sur les Pyrénées et sur les Caps Corses, avec au fil de l'après-midi un ciel qui va se voiler de l'Aquitaine au Roussillon, avant le développement d'orages sur les Pyrénées. Des orages qui vont gagner ce soir et la nuit prochaine vers les plaines du sud-ouest, le Massif central et le golfe du Lion.
Jean-Michel Golinski de Météo France.